Les Anneaux de la Mémoire, une histoire des esclavages. Chers auditeurs, bonjour. Cette semaine, nous poursuivons notre discussion avec l'historien Bernard Michon autour de la figure de Guillaume Groulx, négociant armateur négrier nantais, au XVIIIe siècle. La semaine dernière, nous avons évoqué les origines familiales des Groulx, la formation du personnage et son activité d'armement. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à une autre facette de ce personnage. Alors ma première question, Bernard, est-ce que Guillaume Groulx s'est marié ?
Effectivement, Guillaume Groulx s'est marié le 17 janvier 1741 dans la chapelle du Sanita de Nantes et il y épouse Anne O'Shill qui est issue d'une famille irlandaise, donc du fameux clan irlandais installé à Nantes. D'abord un mot peut-être sur l'âge du mariage puisque notre personnage, Guillaume Groulx, se marie à un âge tardif. C'est un homme d'âge mûr, il est âgé d'une quarantaine d'années. Alors ce n'est pas rare dans le milieu négociant de voir des mariages tardifs dans la mesure où il faut attendre, j'allais dire, d'être établi dans la vie pour pouvoir se marier. Cela dit, on peut dire que notre personnage se marie quand même relativement tard. Des mariages à une trentaine d'années sont tout de même plus fréquents. Il épouse Anne O'Shill, donc issue d'un clan irlandais, et cette famille est tout à fait intéressante. Ce sont des Irlandais qui ont fui donc la glorieuse révolution et la chute de Jacques II Stuart à la fin du XVIIe siècle et qui se retrouve en France en particulier. Et donc Anne O'Shill a plusieurs sœurs qui sont mariées avec les Stapleton, avec les Walsh. On a évoqué la figure d'Antoine Vincent Walsh. Et également, donc elle a un frère qui a épousé, lui, une membre de la famille Clark. Donc, avec cette union, finalement, Guillaume Groulx se trouve parent avec un très puissant réseau, puisque ces Irlandais sont tout à fait puissants et en particulier dans l'armement maritime. Il d'ailleurs a noté que le père donc d'Anne O'Shill meurt en 1745 et que c'est Guillaume Groulx qui est chargé de gérer, j'allais dire, la fortune du beau-père, donc ce qui montre bien qu'il est complètement intégré à ce clan irlandais.
Voilà, donc une union aussi intéressée pour Guillaume Groulx.
Le mariage est d'abord, à cette époque-là, une affaire. Avant d'être, je dirais, une union entre deux personnages, l'idée de l'amour au sein du mariage est évidemment possible à cette époque-là, mais il s'agit d'abord de la plus grande affaire de la vie d'un homme ou d'une femme à cette époque-là.
Et ce couple aura-t-il des enfants ?
Alors non, le couple Groulx-O'Shill est un couple qui est stérile, sans que l'on sache si la stérilité vient du personnage donc de Guillaume Groulx ou d'Anne O'Shill, mais en tout cas le couple n'a pas d'enfants. Ce qui évidemment a des conséquences, notamment pour l'héritage. Ça veut dire que ce sont des neveux, des nièces, des cousines qui vont hériter et évidemment toute la parentèle des Groulx, tout ce réseau familial extrêmement important va bénéficier de l'héritage de Guillaume Groulx. Un héritage qui est tout à fait considérable. Je reviens à son mariage en 1741. On a un personnage qui n'a pas encore directement armé de navire, puisque je l'ai dit lors de la précédente émission, et il commence l'armement maritime en 1742. Mais on a déjà un personnage qui déclare posséder une fortune propre d'environ 1 million de livres, ce qui est tout à fait considérable. Et on estime qu'à sa mort, il laisse une fortune millionnaire, peut-être entre 4 et 5 millions de livres. Mais là, évidemment, entre les biens mobiliers, les biens immobiliers, il est parfois difficile d'avoir des estimations fiables.
J'ancrais l'espérance aux racines de ma vie. Planter des flambeaux à la lisière des nuits.
Neuf, c'est chaud, c'est Até sem querer, faz com que a bondade se instale sem saber. Com boa vontade vamos estender as mãos, promovendo a união pra poder melhor viver.
La grande ville nous a plongé dans sa commune. Dehors y'a pas d'étrangers, y'a que des inconnus. Voilà ce qu'on est venu demander. La beauté n'a pas de frontières, les frontières n'ont pas de beauté.
Nous sommes les nouveaux rois, nous sommes les nouveaux rois, nous sommes les nouveaux rois. Vous êtes les nouveaux rois, vous êtes les nouveaux rois, vous êtes les nouveaux rois.
Non, 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 non.
Ek ta hi param dharm hai, isse bada na koi.
Vous écoutez Les Anneaux de la Mémoire, une histoire des esclavages, je suis avec Bernard Michon. Alors je reviens sur Guillaume Groulx et son héritage qu'il a laissé à Nantes. Outre la rue Guillaume Groulx, donc qu'on a évoqué dans l'émission précédente, un autre lieu de la ville de Nantes rappelle le personnage. Il s'agit d'un immeuble situé sur l'île Feydeau. Est-ce que vous pouvez nous en dire davantage ?
Cet immeuble Groulx, hein, qui se trouve sur l'île Feydeau, si vous regardez l'île Feydeau en vous situant face donc à la place de la Petite Hollande, vous regardez donc sur la droite de la rue Kervégan, vous avez l'hôtel donc Péry de la Villestreux, hein, qui est le plus massif parce que c'est le seul hôtel de l'île Feydeau à avoir été construit sur deux parcelles. De l'autre côté de la rue Kervégan, vous avez un immeuble qui est un immeuble qui a été achevé au milieu du XVIIIe siècle, un petit peu avant, aux alentours des années 1747. Et c'est l'un des premiers immeubles à avoir été construit dans ce lotissement de l'île Feydeau, hein, qui porte le nom de l'intendant de Bretagne, Feydeau de Broux. Lotissement qui a été pensé par des promoteurs, et en particulier le rôle du subdélégué de l'intendant et maire de Nantes, Gérard Mélier, a été important dans l'impulsion de ce projet immobilier. Groulx, comme de nombreux autres négociants nantais, achète des parcelles, achète une parcelle pour faire construire cet immeuble que l'on peut encore voir aujourd'hui. D'ailleurs, on pense que Guillaume Groulx a vécu, hein, il a vécu dans cet immeuble, mais cela n'est pas tout à fait certain. En particulier, on ne sait pas si le couple vivait dans cet immeuble.
Et alors, où habitait le couple Guillaume Groulx ?
Alors, Guillaume Groulx disposait de plusieurs logements à l'intérieur de la ville de Nantes, plusieurs logements et également, je le signale, ce qu'on appelle une folie. C'est-à-dire un château construit à la campagne du côté de Château Thébault, c'est le château de la Placelière. Et ce château, il est également utilisé, ce nom de la Placelière est également utilisé pour des navires de Guillaume Groulx qui s'appelle La Placelière. Alors, la veuve de Guillaume Groulx vit quai Brancas dans un appartement. Il est également à noter que Guillaume Groulx loge certaines de ses sœurs sur le quai de la Fosse. Donc, il possède de nombreux biens immobiliers dans la ville de Nantes.
Vous avez parlé, Bernard Michon, du décès de Guillaume Groulx. Est-ce que vous pouvez nous dire quand décède-t-il ?
Guillaume Groulx meurt le 28 novembre 1774. On dispose d'un testament extrêmement détaillé sur, je dirais, les volontés du défunt. Il est conservé chez le notaire Foucrot à Nantes et on peut le consulter aux archives départementales. En revanche, à la mort de Guillaume Groulx, il n'est pas procédé à un inventaire comme ça peut être le cas pour plusieurs autres négociants, ce qui nous empêche par exemple d'avoir, et Jean Meyer le regrettait dans les articles que j'ai cités lors de l'émission précédente, l'historien Jean Meyer regrettait qu'on ne dispose pas par exemple de l'inventaire de sa bibliothèque. Ça aurait pu être tout à fait intéressant pour les historiens de savoir de quels livres le personnage disposait. On peut estimer que sa veuve, qui d'ailleurs poursuit ses activités commerciales pendant relativement longtemps, a sans doute empêché un véritable inventaire de ses biens au moment de sa disparition. Ce que l'on sait par son testament, c'est qu'il fait des legs tout à fait importants, à des associations religieuses, à des associations, on dirait aujourd'hui, caritatives. Et parmi les dons qu'il opère, il opère donc un don de 200 000 livres, qui est une somme considérable, qui doit être employée à la construction du fameux hospice pour les orphelins que nous avons évoqué dans l'émission précédente.
Une légende tenace reste accolée à la sépulture du personnage. On en avait parlé l'année dernière avec l'historien Jean Breteau. Qu'en est-il de cette légende ? Est-ce que vous pouvez nous en reparler ?
Tout à fait. On estime que, et c'est quelque chose qu'on peut lire très fréquemment et qu'on entend à Nantes, c'est que l'enterrement de Guillaume Groulx, une sorte de procession aurait eu lieu la nuit et un cortège de 80 serviteurs noirs aurait accompagné de flambeaux la dépouille mortelle de Guillaume Groulx. En réalité, il s'agit donc de quelque chose qui est une légende urbaine, puisqu'il ne s'agit pas de 80 serviteurs noirs, mais de 80 personnes, de 80 serviteurs vêtus de noir. Et donc du coup, il y a une confusion, mais pour préparer cette émission, j'ai eu l'occasion de surfer sur Internet et de retrouver à plusieurs endroits, sur plusieurs sites, cette légende. Il s'agit en fait d'une mauvaise lecture des documents du XVIIIe siècle.
Et qui rattache jusqu'à sa mort Guillaume Groulx et son commerce négrier.
Tout à fait.
Bernard Michon, merci. On se retrouve prochainement pour de nouvelles émissions et nous aurons comme invité Olivier Grenouillot. Merci aux auditeurs qui nous écoutent. Très belle fin de journée. C'était Les Anneaux de la mémoire, une histoire des esclavages. Cette émission vous a été présentée par Barbara Chiron de l'association Les Anneaux de la Mémoire, avec à la technique José Pasquale.